VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guirieck au micro, dans quelques instants Sporama avec Nicolas Pineau. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Des milliers d'habitants du sud de Brazzaville ont fui leur quartier aujourd'hui après plusieurs heures d'échanges de tirs et de canonnades provoquées selon le gouvernement congolais par une attaque menée par un nombre indéterminé d'hommes armés contre des bâtiments publics. Les combats auraient donc opposé les forces de l'ordre à d'ex-miliciens Ninja Sliloulou. Au Tchad, après les quatre leaders incarcérés depuis bientôt deux semaines, un cinquième vient d'être interpellé par la police judiciaire. Il s'agit du docteur Albi Sati Saleh Al-Azam, l'un des porte-parole de la coalition Ça suffit. Dans un point presse ce midi à la Bourse du Travail de N'Djamena, les coalitions Ça suffit et Trop c'est trop ont dénoncé cet acharnement contre la société civile. Ils maintiennent par ailleurs la marche pacifique de deux. Demain. Deux personnes ont été tuées dimanche soir et quatre autres blessées dans le sud-ouest du Burundi. Une grenade a fait cinq blessés d'une même famille dans le centre du pays. On ne connaît toujours pas les mobiles de ces violences armées. Au Burundi toujours, le rapatriement du corps de l'ancien ambassadeur et ministre rwandais Jacques Biosagara vient d'être autorisé par Bujumbura. Arrêté par les services burundais des renseignements, détenu illégalement, sa mort subite à la prison centrale de Pimba n'a toujours pas été expliquée. Deux détenus de la prison américaine de Guantanamo ont été transférés au Sénégal. D'après les autorités américaines, il s'agit de deux Libyens, Salem Abdou Salem Guerebi et Omar Khalif Mohamed Aboubakar Manjour Oumar. Ils auraient, d'après le New York Times, des liens avec Al-Qaïda et un groupe libyen de combattants islamistes. Inondation au Pakistan, 55 morts et des milliers de personnes bloquées après des pluies torrentielles dans le nord-ouest du pays. L'armée est en train d'organiser une opération de sauvetage. Trois bateaux turcs ont amené en Turquie 202 migrants irrégulièrement débarqués en Grèce, tandis que 43 Syriens étaient envoyés de Turquie dans l'Union européenne, dans ce que l'AFP appelle une répétition générale de la mise en œuvre de l'accord controversé UE-Turquie. Voilà pour ce bulletin d'information. Micro, c'était Morgane Guirieck. Tout de suite, c'est Sporama avec Nicolas Pineau.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine dans notre émission, les résultats, les analyses et aux commentaires, chers auditeurs, vous pouvez nous appeler en direct dans le studio 001 202 619 31 40, 001 202 619 31 40. Également les réactions sur la page Facebook de VOA Afrique pour participer à notre émission. On va prendre également vos appels, évidemment, et on va saluer nos consultants ce soir, notamment Thierry Kambundi, qui est à Kinshasa via Skype. Thierry Kambundi de notre station partenaire Top Congo, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs de Sporama.
Et on va faire un grand coucou également à Jules Valentin-Goué à Libreville. Bonsoir Jules.
Ah, Nicolas, bonsoir à tous.
On va également saluer Élisée Oumpatine à Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Voilà, merci à tous d'être avec nous ce soir. On va évidemment parler beaucoup de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, puisque les 3e et 4e journées, évidemment, avaient lieu le week-end évidemment dernier et également en début de semaine dernière. Il y a eu des surprises et il y a eu un pays qualifié, le premier pays évidemment, le Maroc, d'Hervé Renard. On va revenir avec vous. On parlera également de l'élimination du Nigeria. Encore un coup dur, on va dire, pour les Super Eagles. On va faire le point ce soir, évidemment, avec vous, chers amis. On va commencer par le groupe A. Le groupe A où la Tunisie, évidemment, qui caracole en tête avec 9 points après cette quatrième journée. La Tunisie qui s'est d'abord imposée chez elle à Monastir avant, effectivement, de voir un match nul 0-0. C'était au Togo. Le Togo, évidemment, avec une nouvelle polémique. Emmanuel Adebayor viendra pas. Ça a été un long feuilleton pour les éperviers. Mais aujourd'hui, la Tunisie, évidemment, qui est bien partie. Et également le Libéria, c'est important de le noter. Jules Valentin-Gouet, qu'est-ce qui se passe pour les éperviers? Encore et toujours une polémique autour, évidemment, d'Emmanuel Adebayor.
Bien sûr, tout le problème togolais tourne autour d'Adebayor, et qui est un joueur instable, disons que mentalement. Donc finalement, l'équipe, quand le joueur a toutes ses capacités, et joue un cran plus haut, et quand le joueur commence à avoir des caprices, et finalement l'équipe prend un coup. Mais pourtant, cette équipe parfois s'exprime bien sans Adebayor, mais il faut dire qu'elle est perturbée.
Merci beaucoup, Jules Valentin. On va revenir avec vous, Élise Ngpatine, hein, puisque dans ce groupe A, belle performance du Libérien. Hein.
Bien sûr, hein, Nicolas, il faut dire que les Lone Stars ont connu deux Coupes d'Afrique et des Nations dans leur histoire. On se rappelle, hein, en 1996 et 2002, les deux, le capitaine providentiel, hein, Georges Weah, que le présente plus, ancien ballon seul, d'ailleurs, ballon d'or africain pour le plus olympique de France Football. Aujourd'hui, les Libériens profitent, hein, de ce match qui a eu entre la Tunisie et le Togo à Kigali. C'est vrai que les Tunisiens l'ont emporté au match. Mais les Libériens, vainqueurs de leur double confrontation contre Djibouti, se placent à la tête de ce groupe. Il faut le signaler, pour dire que pour l'édition de 2017 au Gabon, la Lonsa a de belles chances, hein, au vertu de sa première place dans ce groupe A, aux dépens de la Tunisie, favorite, et du Togo, principal outsider, avec du point d'avance sur les deux équipes. Nicolas, le Libéria devra battre le Togo à domicile en juin prochain et ne pas perdre à Tunis lors de la dernière journée. Les Libériens pourront compter sur les artificiers, il faut le préciser. Et William Gébon, qui fait partie des meilleurs buteurs de ces éliminatoires avec 4 buts. En attendant, donc, c'est une très belle formation libériane qui a désormais sa chance dans ses mains pour pouvoir se qualifier à une troisième phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Ouais, merci beaucoup, hein, Élise Ngpatine. On va passer à ce groupe B qui intéresse évidemment tous nos auditeurs congolais. Évidemment, la République démocratique du Congo, les Léopards, qui avaient cette double confrontation avec l'Angola, et la RDC qui s'est imposée, hein, notamment 2-0 lors du match retour en Angola. Avant d'entendre Thierry Kambundi, on va écouter Florent Mbenge, l'entraîneur des Léopards, au micro de Top Congo FM.
On ne peut pas se plaindre quand on gagne 2-0 à la mi-temps à l'extérieur. Vous gagnez 2-0 à l'extérieur, c'est quand même... plus que bien, et vous vous remettez dans la course, vous reprenez la première place et vous êtes à 3 points de la qualification, enfin à une victoire face à la RCA. Donc on ne peut qu'être satisfait de ce match là d'autant plus que si vous voyez le match, il aurait pu être beaucoup plus corsé avec deux faits de jeu hyper importants, avec des pénaltys qui sont pas sifflés. Mais bon, ça c'est l'arbitrage en Afrique, de temps en temps c'est comme ça, et on se plaint pas. On a gagné 2-0 à l'extérieur, c'est une très belle chose.
Voilà, Florent Mbenge, le sélectionneur de la RDC. On va passer évidemment à Kinshasa. On va retrouver notre ami Thierry Kambundi, hein, de Top Congo FM. Alors Thierry, on a beaucoup parlé de pénalty litigieux, des arrêts de jeu interminables. Qu'est-ce que vous retenez de cette double confrontation contre les Palancas Negras?
Je note qu'au plan des résultats, les Léopards ont réalisé une très très bonne opération. Le plein des points, 6 sur 6. Évidemment, ce pénalty au-delà du temps additionnel, au-delà des 7 minutes accordées par l'arbitre lors du match aller, a fait débat ici. Le plus important, c'était la victoire des buts à 1 au Stade des Martyrs. Les Léopards, qui étaient bousculés à la maison le samedi 26, sont allés l'emporter à Luanda, alors qu'on avait tous peur justement de ce qui allait se passer au vu de la prestation des Palancas Negras. Ils ont réussi un match accompli. Au plan du résultat, ils ont été plus efficaces, même si dans le match, tout n'a pas été parfait, comme le coach Florent l'a dit. Ils ont réussi un excellent résultat. Au final, 6 sur 6, ils sont en tête et il ne leur reste qu'un match à gagner face aux pauvres de Bazoubangui, qui sont deuxièmes avec 7 points, et que les Léopards vont recevoir ici au Stade des Martyrs en septembre pour clôturer ces éliminatoires, pour avoir leur billet pour le Gabon. Entre-temps, ils peuvent aller également négocier un bon résultat comme l'ont fait les Centrafricains et les Angolais à Antananarivo contre les Barrières de Madagascar, dont les Léopards sont très bien partis pour se retrouver en janvier prochain au pays d'Ali Bongo Ondimba.
On espère du côté évidemment de Kinshasa. On rappelle, hein, vous l'avez dit, les fauves du Bazoubangui, belle prestation hein, des hommes d'Hervé Lugundji. On sait que c'est pas facile hein, pour l'effectif centrafricain. On va prendre un premier appel dans Sporama. On va prendre la direction de l'Angola, retrouver Jean-Paul Vangou. Bonsoir Jean-Paul. Alors Jean-Paul, est-ce que vous nous attendez en Angola? Alors vous êtes très très faible, on va essayer de voir en studio si on peut faire quelque chose au niveau du son parce qu'on ne vous entend pas du tout. Jean-Paul, on va faire un dernier essai, est-ce que vous nous entendez? Voilà, on vous entend très très difficilement malheureusement Jean-Paul. On va prendre un autre appel, on va écouter De Brux Bengala. Bonsoir De Brux.
Bonsoir monsieur, bonsoir.
Voilà, alors De Brux, évidemment, vous nous avez écrit sur notre page Facebook. Vous parliez justement hein, de ce match Angola-RDC, la victoire des Congolais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre?
C'était une rencontre riche en couleurs. Il y a une très grande communauté congolaise vivra ici.
Voilà, très chaleureux. Ouais, la connexion est encore très difficile malheureusement avec l'Angola. On va rappeler évidemment les prochaines confrontations Madagascar, RDC et Centrafrique, Angola. Vous êtes toujours à l'écoute de Sporama sur VOA Afrique. On rappelle le numéro pour participer en direct, 001 202 619 31 40, 001 202 619 31 40. On va également vous saluer tous ceux qui nous suivent, évidemment, sur notre page Facebook VOA Afrique. Déjà plus d'un million de fans, continuez. On va parler à présent du groupe C, un groupe qui est dominé par deux équipes ouest-africaines, les Aigles du Mali et les Écureuils du Bénin, qui n'ont pas eu évidemment le même parcours lors de cette journée. Le Bénin qui s'est facilement imposé face au Soudan du Sud, hein, la jeune nation africaine du football, 4-1. Et la Guinée équatoriale qui a été battue à domicile par les Aigles du Mali, 1-0. Élisée Oumpatine, évidemment, vous suivez le Bénin hein, pour VOA Afrique. Est-ce que les Écureuils vont pouvoir aller chercher les Aigles du Mali?
Oui, en attendant Nicolas d'aller chercher les Maliens lors de la dernière journée, il faudra faire une très grande performance à domicile lors de l'avant-dernière journée contre les Équato-Guinéens, puisque ce sera un match piège et un match qu'il ne faut pas du tout perdre hein, en attendant de se déplacer du côté de Bamako, puisque là, véritablement, c'est vrai que les Sud-Soudanais sont difficiles à battre à domicile, mais les Maliens avec beaucoup d'expérience pourront aller chercher les 3 points maintenant, quitte au Béninois, hein, de bien se comporter à domicile en attendant d'aller jouer peut-être la finale de ce groupe à Bamako. Mais pour la petite histoire, Nicolas, il faut dire que quand le Bénin se retrouve dans le même groupe hein, que le Mali, la dernière fois, c'était en 2010, eh bien, les Écureuils se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en ce moment-là du côté de l'Angola. Maintenant, est-ce que ça va se répéter? Oumar Tchoumougou, très confiant, devra amener cette équipe très loin puisqu'on attend cette qualification depuis près de 7 ans.
Allez, on va prendre un appel d'un auditeur qui nous appelle depuis le Mali. Il s'agit de Bakary. Bonsoir, Bakary. Voilà, on va me faire signe qu'on va avoir Bakary après. On va vous poser la question à vous, Jules Valentin Ngoué, sur ce groupe, hein, on le rappelle, le Soudan du Sud, hein, qui finalement n'est fait pas si mal que ça. Hein, et la Guinée équatoriale, c'est étonnant la Guinée équatoriale, hein, parce qu'il y avait eu évidemment cette belle CAN, finalement à domicile, où on avait pu aller facilement assez loin dans la compétition, les quarts de finale il me semble. Que se passe-t-il pour les Scorpions?
Il faut dire que c'est une poule qui est très serrée et que la Guinée équatoriale a tenu la dragée haute au Mali pendant longtemps, ce qui n'est pas mal. Et cette équipe surtout a, disons, l'inconvénient d'être, en pleine possession de ses moyens que à la pendant les grandes compétitions. Donc, entre-temps, lors des éliminatoires et consorts, généralement, ce groupe qui est hétérogène au départ ne retrouve pas encore son fond de jeu réel et son dynamisme offensif. Donc, ce n'est pas étonnant que le Mali et le Bénin se retrouvent en tête de cette poule. Deux équipes qui, comme l'a dit tout à l'heure notre confrère, sont des équipes qui se connaissent bien, mais qui nous proposent une opposition de style où le plus souvent, le Bénin avait son jeu court, vif, au sol, a trop de problèmes au Mali. Alors, on verra ce qui va se passer.
Et justement, on va prendre un appel. On me fait signe en régie qu'on a Bakary.